Nous louons Dieu avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Bon, c'est bon, il est parti. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et nous chantons le deuxième cantique. Non, nous chantons le 42-23. Non, j'arrive pas à lire sur mon truc. Les marges ont sauté. Et le papier est là. 41-23, rempli d'amour et de reconnaissance. Pourquoi il n'y a pas les pages ?
Rempli d'amour.
Prenez place. Bienvenue donc à ce culte du dernier dimanche de l'année. Ah bah oui, dimanche prochain c'est le premier dimanche de l'Avent, donc le début de l'année liturgique. Oui, ça fait beaucoup de derniers dimanches de l'année en fait, mais bon, celui-ci en est un. Donc vous avez, pour ceux qui viendraient pour la première fois, qui seraient de passage, dans votre cantique, un petit livret que nous suivons pour la plupart des chants. Nous plaçons notre vie sous le regard de Dieu. Nous prions. Nous avons souvent entendu ta parole, nous l'avons peu écoutée. Nous avons beaucoup prêché la liberté, mais nous l'avons peu vécue, et l'oppression gagne partout. Nous avons appelé les autres à la paix, mais nous l'avons peu manifestée, et la haine envahit le monde. C'est là notre péché, pour n'avoir pas écouté ta parole, pour n'avoir pas vécu en homme et femme libre, pour n'avoir pas agi en ouvrier de paix. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié, en Jésus-Christ. Amen. De tous mes maux, il me guérit. À la fin du livre du prophète Michée, le prophète annonce que Dieu n'a pas renoncé à la miséricorde. Qui est Dieu comme toi? Tu ôtes le péché, tu passes sur les révoltes de ton peuple, tu ne gardes pas ta colère à toujours, mais tu prends plaisir à la miséricorde. Une fois encore, Dieu nous manifeste sa bienveillance, il piétine nos fautes, il jette nos péchés au fond de la mer. Dans la Bible, la mer est le lieu des abîmes, des ténèbres et des monstres terrifiants. Dieu prend nos fautes, il les écrase en marchant dessus. Il les piétine pour les réduire en poussière. Il prend le reste de nos péchés et va les enfouir dans la mer, au plus profond des abysses, afin qu'ils ne viennent plus nous perturber. Et quand le prophète pose la question « Qui est Dieu comme toi ?» avec lui nous répondons « Tu es le Dieu de la miséricorde. Dieu nous accueille et nous pardonne dans le Christ Jésus. Amen. Ô ma joie et mon espérance, nous levons pour chanter le cantique. Dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, nous lisons ceci. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, vous vous abuseriez. Celui qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à un homme qui s'observe dans un miroir, puis s'en va et oublie comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté s'y attache, non comme un auditeur distrait, mais pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. De ton esprit emplis nos êtres. Prenez place. Pour aujourd'hui, j'ai retenu une des lectures proposées, celle du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34. Alors, il nous proposait une découpe du style 11 à 13 et 15, et 16 à 17, enfin un truc comme ça. Alors, j'ai dit, on va tout prendre. Donc, ce sera 11 à 17 dans le livre du prophète Ézéchiel. Mais avant, nous prions. Seigneur, tu nous parles. Les mots que tu nous dis nous sont précieux. Ils nous réjouissent, ils nous interpellent, ils nous dérangent, ils nous étonnent tout au long de nos jours. Les mots que tu nous dis m'émerveillent et je voudrais les recevoir comme tu me reçois, les prendre au sérieux comme tu me prends au sérieux. Je voudrais t'écouter comme tu m'écoutes, avec attention, avec sollicitude. Seigneur, tu nous parles, les mots que tu nous dis nous sont précieux. Qu'ils nous fassent vivre par ton esprit. Amen.
La lecture est donc Ézéchiel 34, 11, 17. Car ainsi parle le Seigneur. Je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. De même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Je le ferai sortir d'entre les peuples. Je le ramènerai des différents pays et je l'amènerai sur sa terre. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le creux des vallées et dans tous les lieux habitables du pays. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Son herbage sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. C'est là qu'il pourra se coucher dans un bon herbage et paître un gras pâturage sur les montagnes d'Israël. Moi-même, je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai coucher, oracle du Seigneur Dieu. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Mais la bête grasse, la bête forte, je la supprimerai. Je ferai paître mon troupeau selon le droit.
Souffle du Dieu vivant. Prenez place. Je m'étais gardé la surprise, le suspense. Habituellement, quand on fait une formation de prédicateur, une des premières choses qu'on vous dit, c'est vérifiez bien la version de la Bible qui va être lue avant votre prédication, parce que ça peut perturber un peu. Alors moi, je savais qu'il y avait plusieurs traductions possibles, mais je me suis dit, je vais garder une surprise. Parce qu'il existe deux traductions pour une partie du verset 16. Celle que vous avez entendue, la brebis grasse et vigoureuse, je la détruirai. Ou, et ce n'est pas tout à fait pareil, celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Parfois je pinaille sur des mots, mais là, on est au-delà du pinaillage. Alors, ce n'est pas que le même mot veuille dire plusieurs choses. Ouais, si, mais pas le contraire. Ce serait quand même un peu surprenant. Mais en fait, différents parchemins portent des mots, des verbes différents, qui en hébreu, il faut dire, se ressemblent quand même beaucoup. Les deux versions, donc je la détruirai ou je la garderai, avancent tous des arguments convaincants. Et le contexte n'aide pas. Bien évidemment, la version douce, hein, je la garderai, correspond mieux à l'attitude du berger. Dieu n'est-il pas le Dieu des faibles et des forts? La version plus dure introduit la suite du discours qui s'en prend aux profiteurs, à ceux qui profitent de la détresse pour s'enrichir, pour s'engraisser. Quel que soit le sens que l'on donne à ce bout de verset, cela ne change notamment pas le sens du reste du texte, le sens global. Bon, moi je dois avouer qu'à titre purement personnel, je préfère la version favorable aux brebis grasses et vigoureuses. Mais il faut justement se méfier des interprétations qui nous arrangent un peu trop. Alors, comment décider ? Je ne sais pas. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer, on va parler d'autre chose. Je vais vous parler d'une de mes dernières lectures, une version partielle de la thèse de doctorat d'un de mes collègues sur l'exégèse des trois premières générations des réformateurs de l'espace rhénan. La question à laquelle s'intéresse la thèse est de se demander si la façon de lire la Bible de ces réformateurs, en gros, Calvin, la génération qui l'a précédé, la génération qui l'a suivi, si la façon de lire la Bible de ces réformateurs est en continuité ou en rupture avec celle de leurs prédécesseurs. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous divulgâcher la fin, je vous laisse le suspense de la lecture, mais j'ai découvert que, contrairement à mes croyances, nos anciens n'avaient pas une lecture littéraliste de la Bible. En gros, ils se posaient le même genre de questions que nous, et notamment la question qui va nous intéresser aujourd'hui, à qui s'adressent les auteurs bibliques ? Est-ce que les prophètes parlent vraiment de Jésus de Nazareth quand ils annoncent un berger pour Israël ou un serviteur souffrant de Dieu ? Les réponses sont diverses, mais s'accordent sur un point. Les prophètes parlent d'abord, à leurs contemporains, aux gens de leur époque. Et sauf exception, ce ne sont pas des textes cryptés à plusieurs niveaux que les gens de l'époque n'auraient pas pu comprendre, mais que nous pourrions comprendre à distance. Bref, ils ne voulaient pas, comme je dis moi-même quand je suis un peu énervé, trouver du Jésus partout dans le Premier Testament. Il est nécessaire de prendre les textes du Premier Testament pour eux-mêmes et non pour conforter nos préjugés chrétiens. Alors nous voilà donc avec un extrait du prophète Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, qui n'est pas le prophète le plus lu chez nous, à l'exception peut-être du chapitre 37, vous savez, les ossements desséchés qui reprennent vie. Alors, lorsqu'Ézéchiel dit que Dieu va rassembler ses brebis dispersées, il ne parle pas de la fin du monde ou de l'avènement du christianisme, mais bien du retour de l'exil babylonien. C'est le sens premier de ce passage. Mais cela ne signifie pas que ça ne puisse pas faire sens pour d'autres situations. Et si nous lisons la Bible, non, pardon, quand nous lisons la Bible, nous ne le faisons pas pour connaître des épisodes du passé, mais pour essayer de comprendre ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Mais pour cela, nous devons prendre le texte au sérieux et ne pas oublier qu'il ne s'adresse pas d'abord à nous. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure que le texte pour aujourd'hui sautait deux versets, les versets 13 et 14. Et ces versets 13 et 14, c'est justement, je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Alors pourquoi ces deux versets qui n'ont rien de choquant ont-ils, à mon avis, été supprimés de la lecture ? Probablement parce qu'ils font justement trop référence au contexte immédiat du prophète, exil babylonien et terre d'Israël. Or, selon moi, c'est une faute. On ne peut pas comprendre ce que Dieu nous dit à travers les passages bibliques sans considérer leur sens premier, dans la situation première. Bien sûr, il nous est tous arrivé de lire un passage biblique qui répondait à nos questions. Oh, ce verset, il est pour moi. Mais j'aime croire que personne, pas même la personne avec l'ego le plus démesuré, n'imagine que ce verset a été écrit il y a plus de 2000 ans juste pour lui. Hein? Simplement, ça fait écho à des choses que nous aussi, nous vivons. Bien sûr, aujourd'hui encore, Dieu nous parle, notamment à travers la lecture des Écritures. Néanmoins, nous sommes bien obligés de reconnaître qu'il y a tellement de choses qui ont changé depuis les temps de la rédaction. Pour en prendre deux, majeurs comme ça, notre compréhension de notre place dans l'univers, ou la conception de Dieu, ces choses-là ont totalement évolué. Normalement, il nous vient moins vite à l'idée que nos malheurs arrivent à cause de la colère de Dieu. Nous attribuons davantage les exils à la dureté des humains qu'à la colère de Dieu. Même si nous continuons à affirmer que Dieu tient le monde dans ses mains, nous avons une vision plus fine des forces à l'œuvre dans l'univers. Néanmoins, pour un chrétien, le monde n'est pas juste une mécanique implacable. Il est habité par quelqu'un qui veille sur nous. Qui veille sur nous, non pas à la manière d'un surveillant de baignade ou de prison, mais à la façon d'un parent. Ni pour empêcher les problèmes de survenir, ni pour nous empêcher d'utiliser notre liberté. Mais pour que dans nos problèmes, dans l'usage de notre liberté, nous nous sentions jamais seuls. Que jamais nous ne manquions d'une épaule sur laquelle pleurer, d'une personne pour se réjouir avec nous. Dieu ne nous aime pas globalement. Il nous aime dans la situation dans laquelle nous sommes. Je ne dis pas qu'il aime la situation dans laquelle nous sommes, mais bien qu'il nous aime dans la situation qui est la nôtre. La distinction est importante. L'attitude décrite dans l'oracle d'Ézéchiel ne ressemble-t-elle pas à celle d'un père, d'une mère veillant sur son enfant, attentif à tout ce qui lui arrive ? Plusieurs fois dans la Bible, Dieu est ainsi évoqué. Le psaume 17 va même jusqu'à suggérer l'image de la mère poule lorsqu'il dit « Cache-moi à l'ombre de tes ailes ». Dieu est celui qui reçoit nos colères, écoute nos récriminations, essuie nos larmes et partage nos joies. Si Jésus met en avant des enfants comme modèle, c'est pour nous inviter à retrouver avec Dieu cette complicité innocente que des petits-enfants peuvent avoir avec leurs parents. Le berger évoqué ici n'est pas le juge, le guide ou le chef, mais c'est la dimension maternelle de Dieu qui est mise en avant. Dieu prend en considération toute l'épaisseur de notre humanité, humanité qu'il a éprouvée dans le Christ Jésus. Dieu ne me connaît pas comme l'administration, Dieu ne me connaît pas comme l'administration des impôts, un nom et une suite de données et une somme dont il peut tirer de moi. Mais il me connaît comme un être de chair et de sang, avec ses joies et ses peines, ses ombres et ses lumières, ses enthousiasmes et ses hésitations, ses idéaux et ses compromissions. Dieu n'aime pas une version idéale de nous, mais comme nous sommes. Je ne dirais pas que Dieu nous aime tel que nous sommes, non, mais que tel que nous sommes, Dieu nous aime. Une fois encore, comme un père ou une mère aime et veille sur son enfant dans la maladie, même s'il préférait mille fois le voir bien portant. C'est notre faiblesse et non notre force qui nous permet de ressentir pleinement l'amour guérisseur de Dieu. C'est pourquoi le message de Dieu par la bouche du prophète Ézéchiel est double. Il nous réconforte d'une part, il nous menace, disons plutôt qu'il nous prévient de l'autre. Si le texte manie ces deux attitudes de façon conjointe, le lecteur est invité à ressentir l'une ou l'autre. Et c'est ici que notre intelligence doit jouer son rôle. Notre intelligence aidée par l'Esprit de Dieu. Car si nous affirmons que la rédaction des textes fut inspirée par Dieu, nous devons aussi nous rappeler que leur lecture doit se faire au souffle de l'Esprit. Lorsque nous sommes faibles, Dieu se fait soucieux de nous. Lorsque nous nous sentons forts, il nous met en garde. Un jour, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler une heure ou deux à côté d'un enclos à moutons. Eh bien, croyez-moi, depuis, il est difficile comparé à un mouton, de quelque manière que ce soit flatteur. Raison pour laquelle il est bon de garder au cœur, dans nos heures de santé, la légère inquiétude dont parlait le philosophe Kierkegaard. Pas une angoisse, une inquiétude, dans son sens le plus premier, le fait de ne pas être tout à fait quiet, de ne pas être tout à fait tranquille, quelque chose qui nous maintient sur le qui-vive, pour que nos vies ne soient pas celles de moutons à la pâture. Évidemment, sans l'Esprit de Dieu, nous avons tendance à tout prendre à l'envers, à recevoir les menaces quand nous sommes déjà au creux de la vague et les paroles de réconfort quand nous allons bien. Par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu s'est adressé à son peuple à la veille de son exil, lui promettant que sa colère aurait une fin et qu'il continuerait à prendre soin d'eux. À travers les siècles et les lieux, les paroles du prophète nous rappellent que Dieu nous accompagne et prend soin de nous dans toutes les situations, dans tous nos exils, dans toutes les injustices, celles que nous subissons et celles que nous pratiquons. À chaque fois, il est là, mais ses propos et son ton ne sont pas identiques. Vous voyez, finalement, la difficulté de traduction du départ n'était pas si grave. En conclusion, nous pouvons être joyeux, non pas parce que nous ne sommes pas tristes, mais parce que nous sommes consolés. Nous pouvons être courageux, non pas parce que nous n'avons pas peur, mais parce que nous avons été rassurés. Nous pouvons être remplis d'espérance, non que nous n'ayons pas de doute, mais parce que nous avons senti la présence de Dieu à nos côtés. Dieu est présent. Il veille sur toi. Amen. Je vous propose de changer d'animal, nous abandonnons le mouton pour suivre le cerf. Comme un cerf altéré brame, psaume 42, les trois premières strophes, page 62 du livre. Psaume 42, les trois premières strophes.
l'accent de la trompette au milieu du peuple en fête. Mais pourquoi pleurer mon âme et rire d'un tel effroi quand celui que tu réclames est toujours auprès de toi? Il ne vient jamais, il récolte dans mon cœur, et il chante mon cœur, le Seigneur que tu implores.
Comme confession de foi, je propose de prendre un texte des diaconesses de Reuilly et que vous preniez le refrain suivant: Jésus Sauveur, tu es présent. Jésus Sauveur, tu es présent. Dans nos faiblesses, dans nos doutes, dans nos oublis, Jésus Sauveur, tu es présent. Dans nos luttes, dans nos révoltes, dans nos refus, Jésus Sauveur, tu es présent. Dans nos faims et nos soifs, dans nos élans et dans nos désirs, Jésus Sauveur, tu es présent. Dans nos échecs, dans nos questions, dans nos angoisses, Jésus Sauveur, tu es présent. Dans nos forces, dans notre foi, dans notre amour, Jésus Sauveur, tu es présent. Par ta miséricorde, par ta sainteté, par ta sagesse, Jésus Sauveur, tu es présent. Par tes délivrances, par tes consolations, par ton pardon, Jésus Sauveur, tu es présent. Mon seul abri, c'est toi. Prenez place. Nous offrons maintenant nos dons pour le service de l'Église et sa mission dans le monde.
Merci.
Merci Seigneur pour cette offrande que tu nous permets de faire. Accepte-la comme un signe de notre engagement à ton service. Amen. Quelques annonces.
Bonjour à chacun, merci de votre présence, merci à Vincent pour ce culte, cette prédication, merci à Nicolas et Nadine qui nous ont accueillis ce matin, et merci à Andrea pour l'orgue et la flûte. D'abord cette semaine, mardi, la chorale à 19h15, on est dans la ligne droite avant le concert le samedi prochain. Voilà. Mercredi, la prière à 18h. Et voilà. Et samedi entre 11h et 19h, il y a le marché d'artisanat dans nos locaux au profit de Madagascar. Et le soir, à 18h30, il y a le concert de la chorale Capernaum. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent. C'est aussi le dimanche des familles, donc c'est un jour où il y a beaucoup plus de monde. Et c'est le jour où il y aura la vente des couronnes également.
J'ai oublié de remercier Yvan Serge.
Ah, j'ai oublié de remercier Yvan Serge. Excuse-moi, Yvan Serge. Pour l'accueil. Toujours dimanche, l'après-midi à 16h, il y aura une rencontre interreligieuse, c'est pour les responsables religieux, à 16h, c'est par rapport à la paix et pour constituer un communiqué pour la paix entre toutes les religions qui sont sur Annecy. Sinon, autre chose, vous avez vu qu'il y a le journal Nouvelle qui est dans le hall, pensez à le récupérer. La semaine dernière, j'avais fait une annonce à propos d'Alfred qui cherchait un lieu de vie pour la période du 20 décembre au 3 janvier. Je vois qu'il est là aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez quelque chose à lui proposer. Sinon, dimanche dans 15 jours, le 10, il y aura le repas des aînés organisé par le CERA. Donc il y a Claudia et Monique qui sont à l'entrée pour les inscriptions. Et il me reste... Ah oui, la feuille, l'appel... Donc il y a un appel pour une dame qui habite le quartier, qui actuellement deux personnes assurent quelques permanences la journée, ménage, sortie, course. Nous recherchons en urgence une personne pour les nuits, pour l'aider à se coucher et assurer une surveillance. Elle a une téléalarme, il y a une infirmière qui passe matin et soir. Mais voilà, donc c'est plutôt pour la nuit et pour l'aider à se coucher. Nous disposons d'une chambre avec balcon et salle de douche avec WC qui peut être mis à disposition toute l'année. Voilà. Donc si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à venir me joindre. Et sinon, il y a une annonce de la CIMAD. Merci.
Et le conseil d'administration du CERA, oui. Vendredi.
Conseil d'administration vendredi. Du CERA. J'ai pas compris.
Le film. Mercredi, le film, oui. Film du jury.
Mercredi, il y a le film du prix œcuménique du jury.
Du jury œcuménique.
Et puis, nous avons le bureau de l'église mercredi aussi.
Bonjour à chacune et chacun. Alors, voilà. C'est l'époque du festival Migrants Scène sur le plan national. Il a déjà commencé à certains endroits depuis le 15. Chez nous, à Annecy, on fait ça en collaboration avec l'Écrevisse. Le thème cette année, c'est liberté dans l'égalité et la solidarité. Mon souci maintenant, c'est que je vais faire de la concurrence à tout ce qui a été annoncé parce qu'on a exactement des animations aux mêmes dates que celles qui ont été données pour l'Église. Ça commence ce soir à 19h avec une projection avec le Festival alimentaire LCCFD. Vendredi, on va parler du travail avec un film qui s'appelle Premier de Corvée. Samedi prochain, toute la journée, de 11h jusqu'à très tard le soir, on va jouer, on va manger, on va se former, on va regarder des films, rencontrer des gens, partager, danser, etc., etc. Dimanche prochain, à 15h, on inaugure une exposition, qui s'appelle La Fabrique des sans-papiers. C'est une des spécialités de l'État à l'heure actuelle, de fabriquer délibérément des sans-papiers. Et là, lorsque la justice gronde, on répond un peu fortement. Mardi prochain, on aura une rencontre littéraire avec un atelier d'écriture à partir de 18h30. Et puis dimanche, le 10 à 16h, un film absolument magnifique, Le Chant des Vivants, une expérience qui se passe à l'abbaye de Conques. Remettre les gens dans leur vie en leur faisant écrire des chansons. C'est absolument splendide. Voilà. Tout ça a un coût. Et donc, à la sortie, je serai là pour éventuellement vous proposer nos calendriers, nos agendas, etc., etc., ou pour vous donner plus de renseignements, si vous le souhaitez, sur les différentes actions. Je vous remercie beaucoup. L'Écrevisse, c'est rue de l'aérodrome, c'est un lieu de vie assez extraordinaire qui se crée et qui maintenant se développe de plus en plus, puisqu'ils vont mettre en place un centre d'accueil, et donc on vous en parlera aussi dans la journée du 2, 36 rue de l'aérodrome, à Mété. Voilà. Merci.
Je vais juste donner une information plus précise pour le film du jury écuménique mercredi. C'est comme tous les ans, à 19h, au Nemours. Et c'est suivi d'un débat, si vous voulez rester pour le débat. Voilà. Donc 19h. Au Nemours, merci. Mercredi, c'est le cinéma qui est au centre, dans la vieille ville. Merci.
Nous allons maintenant partager le pain et le vin. Je dis le pain et le vin, c'est du jus de raisin, mais enfin bon, symboliquement, c'est du vin. Chacun et chacune est la bienvenue, quelle que soit son appartenance, sa non-appartenance ecclésiale, s'il reconnaît Jésus comme sauveur. Peu importe son sentiment de dignité ou non, il est invité par Jésus à partager son repas. Pour cette scène, nous allons suivre l'histoire du prophète Élie. Élie est un homme de Dieu. Il est parfois considéré comme le plus grand prophète du Premier Testament. Ça ne l'a pas empêché d'avoir de grands moments de lassitude. Sur le mont Carmel, il a invoqué Dieu pour qu'il se manifeste en face des prophètes de Baal, et Dieu lui a répondu. Malgré cela, Élie est obligé de fuir pour échapper à la haine de ceux qui veulent le tuer. Dans sa fuite, il est gagné par le découragement. Il s'en alla au désert à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé, et il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. « Lève-toi et mange. » Il regarda à son chevet, il y avait une galette cuite sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but et il se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva et il mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. À nous aussi, il nous arrive d'être fatigués et découragés de notre foi. Il nous arrive d'avoir le sentiment que tout est gris, que plus rien ne sert à rien. Il nous arrive d'être la proie d'une immense lassitude. Dans ces moments, nous avons envie de nous arrêter de marcher, de nous poser là et d'attendre, de nous laisser aller à l'indifférence, à la passivité, à la paresse. Mais parfois, il nous arrive aussi de recevoir la visite d'un ange, dans la parole d'un ami qui nous touche et nous porte, dans un encouragement, un présent, une bonne nouvelle, une attention, dans un verset qui nous rejoint et qui nous parle. Et c'est comme une lumière qui éclairerait notre nuit. C'est comme une parole qui nous dirait « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » C'est comme une louange qui monterait du plus profond de notre cœur. Seigneur Jésus, par ton esprit. La nuit, une galette et une cruche d'eau, un repas qui appelle à se lever et se mettre en route, un repas qui donne des forces pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Cela ne nous rappelle-t-il pas un autre repas, une autre nuit? Pendant cet autre repas, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Dans notre marche, nous nous sommes arrêtés aujourd'hui pour ce temps de culte, ce temps de repos, de prière, d'écoute de ta parole, de partage du pain et du vin. Nous arrivons avec ce que nous sommes, avec notre fatigue et nos lassitudes, avec notre crainte et nos inquiétudes, notre paresse et nos habitudes. Aie pitié de nous. Nous te prions pour qu'un ange vienne nous visiter, qu'il nous montre dans ce pain et dans ce vin le repas que tu as préparé pour nous. Que sur cette table nous trouvions les signes de la vie, de la mort et de la résurrection de ton Fils. Que cette nourriture nous donne la force de poursuivre notre marche sur les chemins de l'Évangile. L'ange dit à Élie, « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Vous tous qui marchez sur les chemins de la foi, levez-vous, venez et mangez, car tout est prêt. » Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ, versée pour nous et pour tous les peuples. Pour ce repas qui fortifie notre corps et qui désaltère notre soif, nous te louons. Pour ces signes de ta grâce que tu poses sur notre route, nous te louons. Pour des efforts qui nous permettent de marcher plus longtemps, nous te louons. Accorde-nous maintenant la joie, la paix et l'inspiration de ton esprit pour que nous devenions des anges auprès de tous ceux que nous rencontrerons sur notre route. Et nous rassemblons nos prières et nous te prions pour celles et ceux dont l'identité ethnique, culturelle ou religieuse est bafouée. Pour celles et ceux qui sont privés de participer au processus de prise de décision. Pour celles et ceux qui sont privés de travail, de repos et de loisirs, de soins médicaux appropriés et d'éducation. Nous prions pour les individus, les organisations, les églises et les gouvernements qui défient les structures et les lois injustes, défendent celles et ceux qui sont sans voix et qu'on a réduits au silence, qui offrent secours, encouragement et espoir à celles et ceux qui souffrent. Nous prions pour la guérison des nations, pour que les ennemis se réconcilient et que les barrières soient surmontées, pour que cesse l'usage des forces injustes et pour que les peuples vivent en paix. Tout cela, nous te le demandons dans le nom de ton Fils, lui qui nous a enseigné de dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Aujourd'hui, le Seigneur passe, il nous appelle à sortir de nos cavernes. Écoute, il est le bruissement qui murmure une parole de grâce et de consolation. Le souffle de son pardon est ténu, mais il s'infiltre au cœur de ta détresse. Il vient se poser sur le lieu de ta blessure. Aujourd'hui, le Seigneur passe. Il te dit, sors et reprends ton chemin. Que le Dieu notre Père, qui a commencé en nous une œuvre excellente, en poursuive l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, d'amour et de liberté vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tu nous appelles à t'aimer. Thank you.
Oh, j'en sais rien.